au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir un duo d'auteurs, Christine Ducrot et Jean-Yves Guérin. Chers amis, bonjour.
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 Pour leur parution Le management de la colère chez Max Milo, un ouvrage de 255 pages exactement pour 18 euros. Eh bien, très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Canal Académie. Vous pointez du doigt cette exception française que d'autres peuvent considérer comme une grande honte nationale qui concerne les séquestrations illégales et illégitimes des cadres dirigeants, auxquels d'ailleurs, de façon paradoxale, échappent les hommes politiques et les très grands patrons, mais qui accompagnent de façon très régulière la crise et les tensions sociales qui sont liées aux destructions d'emplois et principalement dans le monde industriel, avec son long cortège de mal-être et de chômage. Alors, je rappelle quels sont vos parcours. Vous êtes tous les deux journalistes, je pense que je suis précis sur ce point. Christine Ducrot, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service de la Société du Figaro.
Tout à fait.
Et Jean-Yves Guérin, vous êtes chef de service au Figaro Économie.
Oui, tout D'accord. à fait.
C'est votre première parution ou pas ?
Non, moi j'ai écrit un livre sur l'euro il y a une dizaine d'années. L'euro en 10 leçons, c'était un ouvrage tout à fait pédagogique sur comment allons-nous vivre avec cette nouvelle monnaie.
Ah oui, alors
c'était sur l'euro à l'époque.
Et sur l'euro, vous dites quoi aujourd'hui alors ?
Bah écoutez, moi je suis plutôt convaincue. J'adore voyager et je trouve que c'est bien pratique en fait de faire le tour d'Europe avec une seule monnaie. Donc j'étais assez convaincue avant et c'était la raison pour laquelle je m'étais intéressée à ce sujet. Et je suis convaincue aujourd'hui, même si évidemment la crise pose quelques soucis à l'euro en ce moment.
Très bien, donc ça c'est une question d'actualité sur laquelle on reviendra. Alors, on revient au centre donc de votre parution. Le management de la colère, donc paru chez Max Milo, je l'ai dit tout à l'heure. Donc votre thèse, c'est d'aller au fond de la connaissance des choses en matière de séquestration illégale et donc qui sont faits florès dans l'actualité sociale, on va dire, de la dernière année essentiellement. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Yves Guérin. Quel regard portez-vous sur ce sujet et qu'est-ce qui a dysfonctionné pour qu'on ait cette exception française ?
Alors, je dirais, ce qui a dysfonctionné d'abord, c'est le fait qu'en même temps, il y a eu des événements qui étaient de nature très différente. C'est-à-dire qu'en même temps, on a appris, les Français, monsieur tout le monde a appris que quand on était un dirigeant d'entreprise, on pouvait bénéficier d'un parachute doré, on pouvait toucher des bonus, on pouvait avoir bénéficié d'une retraite chapeau. Autrement dit, qu'il y avait des salariés ou non d'ailleurs, des patrons, qui, alors qu'ils avaient commis des fautes, étaient entre guillemets récompensés pour ces fautes. Et de l'autre côté, la masse des salariés à qui on annonçait que leur entreprise allait fermer, ou en tout cas leur site, et donc que leur emploi était gommé du jour au lendemain. Ces gens-là, ils ont eu du mal à comprendre qu'en même temps, il puisse y avoir deux événements de cette nature, qui sont évidemment contradictoires. Il ne s'agit pas de dire, évidemment, que tous les patrons touchent des bonus, que tous les patrons, quand ils s'en vont, bénéficient d'un parachute doré ou d'une retraite chapeau. Mais les quelques exemples qui ont émaillé l'actualité à partir de la fin du premier trimestre 2009 ont donné l'impression, parfois à juste titre, à ceux qui étaient victimes des plans sociaux, qu'il y avait, pour parler rapidement, deux poids, deux mesures. Et c'est une des raisons qui fait qu'il y a eu une tension.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ces événements et ces situations très particulières, très atypiques d'un certain nombre de dirigeants, étaient rendues insupportables et hautement symboliques pour le commun des salariés et que c'était des situations qui étaient jugées absolument inacceptables. La problématique, et là je me tourne donc vers Madame Christine Ducrot pour lui dire qu'en définitive, il n'est pas dit que les dirigeants des sociétés dans lesquelles les séquestrations se sont passées avaient, eux, des situations particulières. Je me trompe ou pas ?
Non, vous ne vous trompez pas. Et d'ailleurs, effectivement, ce ne sont pas généralement des grands patrons de multinationales. Ce sont plutôt en fait des directeurs d'usines, des directeurs de sites. Mais effectivement, ils ne profitent pas forcément, ils ne bénéficient pas forcément des statuts privilégiés. Ce sont souvent des salariés, des dirigeants salariés, qui donc en fait gagnent 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que gagnent les salariés sur le site. Mais ils ont été assimilés, en fait. Et il y a eu une espèce d'identification et d'assimilation, en fait, entre le patron qui est face à vous, ou plutôt que vous ne connaissez pas forcément, parce qu'il est quand même le représentant d'une multinationale. Et en général, ce n'est pas forcément le patron d'une grosse PME qui est séquestré. C'est parfois justement ces patrons qui tournent, dont le turnover est assez important, qui viennent, qui ne connaissent pas vraiment le site, qui ne vous ont pas forcément recruté. Ça tombe souvent sur ces gens-là qui n'ont pas forcément la culture de la boîte, comme disent ces salariés. Et en fait, ils leur font un peu payer les parachutes dorés, effectivement, de grands patrons, parce qu'ils sont en colère. Alors, on ne va pas défendre. On sait que c'est illégal, on sait que c'est complètement illégitime. Et évidemment, la justice est souvent emparée de certains cas. Mais il faut bien reconnaître que ces situations se passent dans des bassins d'emploi exsangues. Généralement, des couples sont concernés. Parfois, ce sont même des familles. Parfois, on a un père qui travaille dans la boîte. Parfois, on a un fils qu'on voulait faire rentrer. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'effondrement du rêve de l'entreprise dans laquelle on était fiers de travailler. Parce que généralement, on était fiers de travailler chez Molex, on était fiers de travailler chez Conti. On était un peu les seigneurs dans ces endroits-là où, en fait, en France, on le sait, je ne sais pas, chez Molex, par exemple, dans le sud-ouest, on est à 1 heure de Toulouse, c'est loin. Et quand on a un emploi chez Molex, on est content de l'avoir parce qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas en retrouver un quand on va le perdre. Et donc, c'est un élément, et c'est un autre élément à ajouter à ce qu'évoquait Jean-Yves tout à l'heure, qui fait que cette colère est montée, qu'elle est montée de façon plus forte que ce qu'elle était perçue jusque-là.
Oui, alors donc vous nous dites qu'il y a de la colère, de l'incompréhension par rapport à des situations qui paraissent inadmissibles pour le salarié moyen. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ceci peut justifier des séquestrations ? Parce que il semble, à travers ce que vous nous démontrez, que les salariés, en fait, renoncent à faire une bataille pour conserver leur emploi, mais plutôt cherchent à obtenir, via les séquestrations, via donc, on va dire, des situations et des mesures qui sont, on va dire, illégales, moi je crois que c'est le terme qui est juste, à obtenir, comment dirais-je, des compensations exorbitantes par rapport au droit commun. Car en fait, le droit du travail, il est le fait de... On sait d'ailleurs que le droit du travail est totalement protecteur des salariés. À 90%, tout jugement prud'homal va dans le sens des salariés. Et en appel, on arrive à des 95 ou 98%. Donc, qu'est-ce qui peut justifier qu'on sorte du droit du travail ?
C'est pas une justification, c'est plutôt une explication. Si les salariés le font, c'est parce qu'il y a une écoute très forte de ces mouvements auprès des élites. C'est-à-dire qu'il y a une certaine hypocrisie des politiques ou même des dirigeants syndicaux vis-à-vis de ces séquestrations. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « ces actes sont inadmissibles, on ne peut pas justifier de telles pratiques », ce qui est vrai. Et puis, dans la minute qui suit, ils ajoutent « si je suis ministre, si je suis grand délégué syndical », je vais recevoir ces gens-là parce que mon attention a été attirée sur leur dossier.
Donc il y a une sorte de double langage.
Il y a un double langage et il y a une reconnaissance tacite des élites sur le fait qu'en France, c'est un moyen d'attirer l'attention. Et on sait qu'une fois qu'on a attiré l'attention d'un ministre ou d'un décideur, ça veut dire que les indemnités de départ supralégales, au-dessus de ce qui est obligatoire, vont être beaucoup plus fortes que si les gens qui sont victimes d'un plan social étaient restés dans la légalité. C'est pas bien, on peut le déplorer, mais néanmoins, c'est la réalité. Un cabinet spécialisé en ressources humaines qui s'appelle EPSI a mené une étude. Et au terme de cette étude, on voit que ceux qui durcissent les conflits sociaux touchent des indemnités supralégales aux alentours de 40-45 000 euros, alors que ceux qui restent complètement dans la légalité, qui n'occupent pas l'usine, qui ne menacent pas de séquestrer le patron ou de faire sauter les locaux, eux, touchent plutôt 10 ou 12 000 euros, 4 fois moins. C'est énorme.
Mais quelle conclusion vous en tirez ? Parce que ça, c'est sûr qu'à court terme, on peut dire que ces positions et ces actes illégaux et légitimes sont producteurs d'avantages immédiats. Mais la contrepartie de tout ça, c'est que les employeurs vont en tirer des conséquences. On voit bien que pour l'essentiel de ces entreprises qui ont été sous les feux de l'actualité, sont des entreprises qui étaient internationales, en tout cas des filiales d'eux, etc. Est-ce que vous pensez que s'il n'aura pas de conséquences d'effet boomerang sur la création d'emplois et les installations des entreprises en France ? Est-ce que vous croyez qu'à travers l'enquête que vous avez faite, bien entendu, hein, votre avis personnel compte bien sûr, mais surtout à travers l'enquête que vous avez faite, peut-être que Madame Ducrot peut dire quelque chose sur ce plan, qu'en définitive, on n'est pas en train de scier, les employés eux-mêmes ne scient pas la branche sur laquelle ils sont assis ? Jean-Yves Guérin.
Moi, ce que je pense surtout, c'est que cette multitude de séquestrations, cette accumulation de « retenez-moi, sinon je fais un malheur et je fais sauter les locaux de l'entreprise », ça amène à placer les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, devant les responsabilités. Quand on est ministre, quand on est patron, premier secrétaire d'un parti politique, on n'a pas le droit de recevoir des gens parce qu'ils se sont mis dans l'illégalité. Si les plus hautes autorités de l'État accordent du crédit à ce type de manifestation, bien évidemment qu'il est extrêmement compliqué après, en retour, de demander à monsieur ou madame tout le monde qui est victime d'un plan social d'avoir un comportement exemplaire. C'est pas possible. C'est pas possible puisqu'il voit que les résultats sont extrêmement rentables et il est quand même compliqué d'aller contre l'avis d'un ministre, d'aller contre l'avis d'un leader syndical. C'est même impossible. Alors, oui, c'est pas bien, mais c'est aux politiques de le dire. C'est pas aux Molex qui sont à une heure de route de Toulouse ou aux salariés de Continental.
Alors là, vous pointez du doigt donc l'aspect responsabilité. Donc, on voit bien qu'il y a deux types de responsabilités. Il y a bien sûr ceux qui sont victimes de ces plans, de ces injustices sociales, de cette désespérance. Et là, on comprend humainement leur réaction. Puis il y a deux autres types de responsabilités. C'est celle des médias, dont vous êtes non pas les représentants, mais enfin, en tout cas, vous n'êtes pas très éloigné des réflexions des médias. Et puis, par ailleurs, vous le disiez fort justement, c'est ceux qui sont en charge du respect de l'état de droit. Alors, aussi bien les politiques qui, normalement, la pensent et la font, la rendent compréhensible par l'opinion, et puis la justice elle-même qui est chargée de l'appliquer. Alors, ces deux composantes-là, à quelque part, ont des rôles qui sont difficiles à comprendre parfaitement. Madame Christine Ducrot, qu'est-ce que vous dites sur ces deux plans de la responsabilité ?
Écoutez, sur les politiques, en tout cas, nous, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une ambiguïté, en fait, de leur comportement, y compris du président de la République, qui, dans un premier temps, sera le premier, par exemple, avec les Caterpillars, à dire « on va les recevoir, on va discuter, moi, je m'occupe de ce dossier ». Et puis, quand les séquestrations se sont multipliées, au mois de mars dernier, il y a tout juste un an, il a évidemment très vite compris que cette violence, cette escalade de la violence pouvait devenir très dangereuse. Et en fait, à ce moment-là, il a eu un discours, il a fait un déplacement dans les Bouches-du-Rhône, à Venelle, et il a expliqué à quel point il fallait que ça cesse, et à quel point il ne tolérerait pas justement ces séquestrations, et à quel point il fallait que la justice se saisisse de ces dossiers-là. Dans les faits, on se rend bien compte, pour en venir justement à la justice, que les choses ne sont pas si simples. Parce que les dirigeants qui ont été séquestrés, ce ne sont pas les premiers à vouloir après se retrouver à la barre d'un tribunal pour accuser leurs salariés. Pour une raison toute simple, c'est qu'à un moment, il faut bien se mettre autour d'une table et négocier un plan social. Et renégocier, se parler et se regarder droit dans les yeux. Quand on en est là, on ne peut pas avoir traîné ses salariés au tribunal et après se retrouver sereinement autour d'une table pour discuter d'un plan social. Donc là encore, il y a une ambiguïté et le fait est qu'à part le dirigeant de Molex, Marcus Kériou, on n'a pas rencontré de dirigeants qui ont souhaité aller très loin devant les tribunaux, excepté l'affaire de la sous-préfecture de Compiègne qui là est bien différente puisque c'était un saccage par les Conti d'une sous-préfecture et donc du symbole de l'État
dans l'Oise.
Et là, évidemment, la justice a suivi son cours, on peut la juger
jusqu'en appel, où à ce moment-là, elle s'est arrêtée. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Alors, par contre, sur le deuxième plan de la responsabilité, on parle des médias. Alors, page 18, vous dites « l'expression, ça me paraît extrêmement juste, l'expression de la revendication passe par sa médiatisation ».
C'est-à-dire que le social, aujourd'hui, il est médiatique. Et en fait, la revendication, si elle passe aux 20h, bon, on s'amuse un petit peu avec les mots dans le livre, mais on dit que c'est un petit peu la lutte finale qui passe sous les sunlights du 20h. Et effectivement, une fois que le conflit est porté devant les caméras, une fois qu'il est raconté en fait, sur France 2 ou sur TF1, évidemment qu'il prend une ampleur particulière. Et les Français eux-mêmes, il y a eu beaucoup de sondages, en fait, sont assez compréhensifs. Alors, ils ne sont pas forcément les premiers à vouloir eux-mêmes séquestrer leur patron. Mais il y a une espèce de compréhension par identification, en se disant aujourd'hui, ce sont les Conti, ce sont les Molex, mais demain, c'est peut-être moi de telle ou telle entreprise. Et donc, on sent bien qu'il n'y a pas une hostilité franche de ce phénomène qui est effectivement illégal, vous le rappelez tout à l'heure.
Justement, la responsabilité des médias, c'est qu'en définitive, ils en ont le bénéfice et ils n'en ont aucun coût, puisqu'en définitive, ils font de l'audience et ils ne portent aucune responsabilité, si ce n'est que de mettre de l'huile sur le feu et de transmettre, on va dire, une situation à l'opinion qui n'est pas passée au crible d'une réflexion contradictoire. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Jean-Yves Guérin ?
Moi, je pense qu'il faut comprendre comment se fabrique l'information. L'information, elle se fabrique sur un rythme quotidien où, par exemple, on apprend le matin qu'il y a une séquestration qui a commencé et qui se déroule à Grenoble. Ça veut dire que les télés d'infos en continu, qui sont BFM, LCI, Télé, dépêchent deux envoyés spéciaux, un technicien et puis un reporter. Il faut 3 heures de train pour aller à Grenoble. Donc, au mieux, ils arrivent vers 10h, 10h30 s'ils se sont levés très tôt. Ils prennent la direction de l'usine Caterpillar, où a lieu cette séquestration. Et là, le reporter passe un coup de fil pour demander à l'entreprise son point de vue. Ses dirigeants salariés sont retenus. Est-ce que l'entreprise veut s'exprimer ? Dans 9 cas sur 10, comme les entreprises ne sont pas préparées à ce type de fait, elles disent « no comment ». Donc, il y a certainement une responsabilité des journalistes, mais il y a aussi une responsabilité des entreprises qui n'apportent pas d'informations. Donc, le journaliste, avec son caméraman, il arrive sur le théâtre des opérations. Et là, il doit faire un direct pour le 13h, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, la production de l'information. Et évidemment, quand il est sur place, il tombe sur des salariés qui sont prêts à parler, qui sont prêts à donner leur point de vue, alors que de l'autre côté, il y a un manque d'explication. Donc oui, la presse, les médias sont responsables, ont une lourde part de responsabilité, mais pour résumer, les entreprises ne leur facilitent pas la vie et donc ils ont plutôt tendance à ouvrir le micro à ceux qui parlent, c'est-à-dire les salariés.
Alors 2 points donc pour terminer, on a déjà évoqué un certain nombre de points et donc qui sont développés dans votre ouvrage que je considère comme absolument remarquable hein, parce que
merci.
Il est extrêmement comment dirais-je, les recherches sont extrêmement profondes et elles sont en plein dans l'actualité, puisqu'en fait, c'est vraiment J-12 mois quoi, que se sont passées les choses. Hein. Donc, 2 points qui me paraissent importants pour aiguiser l'appétit de nos auditeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, nous sommes dans une logique de rançon. Autrement dit, on n'est plus dans une logique de « je veux obtenir un peu plus par la pression en prime de licenciement, enfin, etc. Enfin, » tout ce qui accompagne la rupture d'emploi, que à tout prix, je m'accroche pour trouver un emploi. Et ça, de votre point de vue, c'est quelque chose qui est pérenne ou ça vous paraît tout à fait circonstanciel ? Enfin, en 2 mots, parce que j'ai 2 autres questions à vous poser. Hein.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les salariés que nous avons rencontrés, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils ne le soient pas, ne croient pas qu'ils vont retrouver un emploi. Et donc, ils sont justement désespérés et donc ils veulent de l'argent pour essayer de tenir. D'accord. Et c'est aussi simple que ça. Franchement, je ne crois pas me tromper en me disant qu'on est loin des séquestrations des années 70 ou 80 qui étaient effectivement pour sauvegarder un emploi tout simplement pour la croissance et avoir des augmentations de salaire. Ce n'est
tout
plus le cas.
C'est plus tout ça. Alors, justement, 2e point qui m'a beaucoup frappé parce que je croyais connaître un peu le sujet, c'est en définitive sur l'ampleur et la profondeur et la gravité du sujet. Et la psychologue clinéticienne qui s'appelle Marie Peset dit à un moment donné « Je crains que l'on voit quelque part, à un moment donné, des crimes en entreprise ». Ce sont des mots forts et à travers les descriptions et les développements que vous faites, on s'aperçoit qu'effectivement, on est passé très très près déjà des dérapages, on va dire, définitifs. Votre sentiment à l'issue de votre enquête sur ce point ?
Bah, écoutez, Marie Peset, justement, est la première personne. On parle de souffrance et de stress au travail aujourd'hui. Hein, Monsieur Darcos a fait un palmarès des entreprises où, en fait, il faisait bon vivre et celles où il faisait un peu moins bon vivre. Et Marie Peset, effectivement, reçoit des gens qui souffrent au travail et dit, en fait, qu'elle pense qu'un jour, cette violence qu'ils ont et qu'ils contiennent encore entre eux, elle craint qu'ils ne la retournent contre leur patron. Parce qu'effectivement, elle les sent désespérés, un peu comme nous les avons sentis désespérés. Et de fait, à Toulouse, il y a très peu de temps, en fait, il y a eu un fait divers dans une entreprise avec un salarié qui voulait quitter l'entreprise. Et visiblement, son patron voulait lui faire accomplir ses 3 mois de préavis. Ça n'a pas été possible. Et il y a eu un fait divers. Il est arrivé avec une carabine. Il l'a tué, le patron et le fils du patron. Donc, c'est un cas extrême, évidemment. On n'en est pas là. Et heureusement, et on espère naturellement qu'on n'en sera jamais là. Mais effectivement, il y a une tension. Nous, on se dit qu'il est temps de se reparler dans l'entreprise et d'essayer de renouer un dialogue pour éviter ces tensions aujourd'hui.
Et alors, justement, pour se reparler, eh bien, il y a une condition sine qua non. C'est ce que vous pointez du doigt, la profonde crise de confiance. Donc, comment rebâtir, selon vous, des conditions de confiance qui permettent de renouer le dialogue social et à partir quand même d'une observation qui me paraît d'une évidence, c'est la question de la représentativité des instances dites représentatives. En quoi les syndicats de salariés et ceux des employeurs sont aujourd'hui suffisamment crédibles pour pouvoir, comment dirais-je, reconstruire un dialogue et la confiance?
Le problème, c'est qu'ils ne le sont pas, justement. Parce qu'il y a un émiettement en France des syndicats qui est encore une autre exception française. Donc, quand vous n'avez que moins de 10% des salariés qui sont syndicalisés, ce qui est un taux historiquement faible, quand en plus ces moins de 10% se répartissent en 5 voire 6 centrales syndicales, forcément, ces centrales, elles ont tendance à durcir la situation et à être jusqu'au boutiste pour attirer les suffrages des salariés. C'est des stratégies à courte vue. C'est des stratégies qui ne sont pas payantes sur le long terme parce que ça fait à peu près 30 ans en France qu'on dit on va s'inspirer du modèle allemand, qui est un modèle de cogestion où effectivement on a des syndicats qui sont associés au processus de décision, mais en contrepartie, ils ne mènent pas des actions de blocage. Et finalement, il y a un cercle vertueux. Alors qu'en France, c'est tout le contraire. On fait d'abord la grève, après on se met autour d'une table. Ce qui serait pas mal, c'est que ce soit l'inverse.
Oui, on l'espère. Alors, vous en priez, allez-y, pour terminer.
Une phrase, c'est que je pense parfois que les syndicats sont tout simplement dépassés par la base dans ces affaires de séquestration ou d'explosion à la bonbonne de gaz et de menaces. On a senti parfois des salariés non syndiqués bien plus virulents et dépassant les syndicalistes qui les représentaient. Oui. Ceux-ci courant un peu derrière, cherchant après à encadrer les conflits, mais n'étant pas forcément à l'origine de ces séquestrations.
Mais n'est-ce pas tout simplement parce que les instances représentatives, les syndicats représentatifs, dits représentatifs au sens de la loi, ne représentent plus du tout la réalité de la société civile, puisqu'en fait, il n'y a qu'à regarder les pourcentages,
tout à fait.
8% ou 5% je crois en moyenne, veut dire que c'est 95% qui ne sont pas représentés. Alors pour donner, comment dirais-je, le ton de votre ouvrage, je voudrais simplement lire une phrase, moins quelques lignes, de votre ouvrage dans la conclusion où vous dites ceci à travers un sondage qui a été effectué pour Altedia par la Sofres. À lire les réponses sans phare, il montre l'ampleur du désamour. Les réponses des sondés, il ne s'agit pas d'une simple méfiance de salariés frondeurs. Un brin arrogant est toujours profondément rebelle quand il faut s'emporter contre le patron ou dire du mal de sa boîte. Non, il s'agit d'une cassure nette, durable, profonde. Les salariés et leurs employeurs ne se comprennent plus comme s'ils vivaient sur des planètes différentes. Alors espérons que les planètes vont se rejoindre, en tout cas que les habitants des planètes vont se rejoindre sur une seule et même planète, la planète Terre. Et je voudrais une nouvelle fois rappeler ce remarquable ouvrage donc, d'un duo d'auteurs, Christine Ducrot, Jean-Yves Guérin, Le management de la colère, c'est Max Milo,
255 pages,
18 euros. Chère Christine Ducrot, cher Jean-Yves Guérin, merci à vous. C'était un moment très agréable et je suis convaincu que nos auditeurs vont vouloir en savoir plus sur cet ouvrage remarquable.
Merci à vous de nous avoir invités. Merci.